Qu'est-ce qu'il lit ?
Qu'est-ce qu'il lit ?
Qu'est-ce qui lit ?
Imaginez l'odeur des frangipaniers et une étendue de champs de canne à sucre. Ananda Devi est née en plein cœur de l'océan Indien. Une enfance sur l'île Maurice pendant laquelle elle a découvert l'imbrication des identités et des langages. Le français, le créole, l'hindi. Autant de langues et de mémoires qu'on retrouve aujourd'hui dans ses livres. Mais de cette enfance insulaire, elle a aussi découvert l'exclusion, la souffrance, la déviance. En écrivant sur son île natale, Ananda Devi offre au lecteur une autre plongée, loin des paysages idylliques des cartes postales. Avec un style incisif, lyrique, qu'elle a développé dans une vingtaine d'ouvrages, elle s'impose aujourd'hui comme l'une des figures centrales et prolifiques des auteurs de l'océan Indien. On la retrouve pour le Qu'est-ce qu'il lit du monde, enregistré au Salon du Livre du Mans.
Qu'est-ce qu'il lit ?
Qu'est-ce qu'il lit ?
Bonjour Ananda Devi.
Bonjour.
Nous sommes au Salon du Livre du Mans et nous allons parler ensemble de votre rapport à la lecture et à la littérature. D'ailleurs, vous vous prêtez déjà à ce jeu dans votre tout dernier livre, « Deux mâles et une marmite », aux éditions Projectile, où vous racontez votre propre cheminement, parfois tortueux, vers l'écriture. Je vous propose une sorte de questionnaire de Proust qui a été élaboré par le monde des livres, le « Qu'est-ce qu'il lit ?». Et pour commencer, j'aimerais savoir s'il y a un livre, un auteur qui vous a donné le goût de la lecture.
Alors, vous allez rire parce que vous venez de dire « je viens d'une petite île tropicale, j'ai vécu toute mon enfance dans un petit village du sud de l'île Maurice, parmi les champs de canne à sucre ». Et le premier livre qui m'a fait rêver à 5 ans, c'était « Les petites filles modèles » de la comtesse de Ségur, qui était à la fois un univers proche et lointain, parce que j'étais aussi une petite fille modèle, très sage, très coquette aussi, mais ma mère m'habillait très bien dans de jolies robes et tout. Et en même temps, c'était un autre univers, parce que c'était celui de la haute bourgeoisie française, et leur mode de vie était tout à fait différent, ces grandes maisons, ces manoirs, etc. Donc, ce qui m'a fait comprendre peut-être inconsciemment que tous les univers étaient accessibles à travers la lecture.
Et bien entendu, on a envie de savoir à qui vous vous identifiez parmi les enfants.
Alors, parmi les enfants, je m'identifiais à Madeleine, parce que Camille était l'aînée, et moi j'étais aussi la plus jeune de trois sœurs. Et pas Sophie, parce qu'elle me désorientait à la fois par la tristesse de sa vie, qui est très cruelle avec sa marâtre, sa belle-mère qui la maltraite, mais aussi par son courage de défier. Et moi, c'était un courage que je n'avais pas, de défier qui que ce soit. Donc elle me fascinait et en même temps me rebutait un peu à cet âge-là.
Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Un jour, Madeleine peignait sa poupée. Camille lui présentait les peignes, rangeait les robes, les souliers, changeait de place les lits de poupée, transportait les armoires, les commodes, les chaises, les tables. Elle voulait, disait-elle, faire leur déménagement. Car ces dames, les poupées, avaient changé de maison. « Je t'assure, Camille, dit Madeleine, que les poupées étaient bien mieux logées dans leur ancienne maison. Il y avait bien plus de place pour leurs meubles. » Oui, c'est vrai, Madeleine, mais elles étaient ennuyées de leur vieille maison. Elles trouvent d'ailleurs qu'ayant une plus petite chambre, elles y auront plus chaud. « Oh, quant à cela, elles se trompent bien, dit Madeleine, car elles sont plus près de la porte qui leur donnera du vent et leurs lits sont tout contre la fenêtre qui ne leur donnera pas de chaleur non plus. »
Si on vous imagine lire la comtesse de Ségur, dans quel endroit lisiez-vous ces livres quand vous étiez petite ?
À trois boutiques, donc, et le petit village où je suis née, dans une grande maison, mais pour une petite fille, elle semblait quand même un peu sombre, un peu étrange aussi. Il y avait un grand verger de manguiers, de laitiers autour. Mais surtout, je lisais dans mon lit, en me cachant un peu de ma mère, qui disait que si je lisais trop, j'allais me gâcher les yeux. Et puis, elle pensait qu'à 5 ans, il fallait pas que je lise les livres de mes grandes sœurs. Mais donc, je lisais en cachette dans mon lit.
Quels livres lisez-vous aussi en cachette ?
Ben, je crois que c'était les Mille et une nuits ensuite que j'ai découvert dans la bibliothèque de mes parents et qui était effectivement, n'était pas du tout un livre pour enfants, de contes pour enfants, mais là j'étais plus grande, mais enfin disons vers l'âge de 8-9 ans, c'était un univers assez envoûtant et dérangeant à la fois, parce que ce sont des contes cruels qui commencent par une reine infidèle et le roi qui l'a fait décapiter. Mais je crois que ça a été un peu la source de quasiment tous mes livres après.
Et est-ce que c'est encore depuis votre lit que vous aimez lire de nouveaux livres ?
Je lis constamment, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que là, effectivement, il me faut lire... pour pouvoir dormir, en fait, c'est impossible pour moi d'aller au lit sans lire. Mais je lis aussi ben, le matin en me réveillant, dans la journée, en voyageant, enfin, à tout moment. Il y a toujours des livres autour de moi. Et si jamais j'oubliais de prendre un livre, par exemple, pendant un voyage, mais je pense que je serais malade. Donc, je n'oublie jamais.
Est-ce que ces livres d'enfance dont vous nous parlez, d'enfance et d'adolescence, ce sont des livres que vous avez envie de relire ou que vous avez peut-être relus récemment ?
La comtesse de Ségur, non, parce que j'ai quand même envie de garder un peu cette magie de l'enfance. Les Mille et une nuits, oui, je le feuillette, je relis un petit peu de temps en temps pour me réimprégner aussi. Le relire d'une autre façon, parce que le rôle des femmes dans ces contes est aussi curieux, puisque c'est une femme, Scheherazade, qui est au centre du livre et qui raconte toutes ces histoires. On ne sait pas qui les a écrites, c'est sûrement plusieurs auteurs et on a tout rassemblé. Mais c'est assez parlant pour moi que toute cette histoire est racontée par une femme et que c'est elle qui finit par sauver les autres femmes par son pouvoir de la narration.
Les Mille et une nuits, traduit par Antoine Galland. Le prince n'eut pas besoin d'en entendre davantage pour concevoir le danger où il se trouvait. Il vit bien que la dame, qui se disait fille de roi des Indes, était une ogresse, fille de ces démons sauvages appelés ogres, qui se retirent dans des lieux abandonnés et se servent de mille ruses pour surprendre et dévorer les passants. Il fut saisi de frayeur et se jeta au plus vite sur son cheval. La prétendue princesse parut dans le moment et voyant qu'elle avait manqué son coup, « Ne craignez rien, cria-t-elle au prince. Qui êtes-vous ? Que cherchez-vous ? » « Je suis égaré, répondit-il, et je cherche mon chemin. »
Est-ce que c'est ce livre, précisément, qui pourrait vous donner envie d'en être l'héroïne ? Est-ce qu'il y en a un livre, justement, où vous avez envie d'être l'héros ou l'héroïne ?
Je ne sais pas, parce qu'en fait, l'écriture m'a toujours permis de devenir autre que moi-même, en fait. Comme j'étais depuis l'enfance très, très timide, j'ai toujours eu du mal, peut-être jusqu'à maintenant, hein, à mon âge, d'être moi-même. J'ai toujours besoin de me cacher un peu derrière mes personnages de fiction et de me révéler petit à petit à travers cela. Et donc, par exemple, vous parliez de Deux mâles et une marmite, c'est peut-être le premier livre où je parle vraiment de moi, de mon parcours littéraire. Enfin, deuxième, disons, parce qu'il y avait un autre avant, mais surtout du parcours littéraire. Et là, je parle à cette jeune adolescente qui commençait à écrire. Donc, j'arrive évidemment maintenant à parler de moi, mais avant, la fiction était toujours le moyen de parler de moi sans le faire. Alors, est-ce que j'aimerais être l'héroïne d'un roman ? Je ne sais pas, bah peut-être, oui, j'aimerais être Scheherazade, même si je n'ai pas envie de me marier avec un roi sanguinaire, mais être celle qui peut subjuguer à travers les contes et la fiction, la narration, oui, ça, j'aimerais bien être elle.
Dans votre bibliographie personnelle, est-ce que vous avez un chef-d'œuvre plutôt inconnu du grand public que vous portez personnellement au nu ?
Il y en a sans doute plusieurs, pas forcément inconnus du grand public, mais bon, je pense qu'on connaît très bien Toni Morrison, l'écrivaine américaine, mais est-ce qu'en France on connaît bien toutes ses œuvres? Alors il y en a un qui s'intitule Jazz et qui est celui, le roman par lequel je suis entrée dans son œuvre, toute son œuvre, et qui est un magnifique roman où la musique est dans le rythme des phrases, dans la manière de raconter, et ça se passe dans les années 40, je pense, à Chicago, dans un monde de noirs qui sont évidemment qui sont dans des difficultés terribles, qui vivent souvent dans la pauvreté, mais qui ont aussi cette musique qui les porte, qui les emporte. Et donc c'est à la fois un roman difficile, tragique, mais qui entraîne dans la lecture par justement cette musicalité des phrases. C'est le roman vers lequel je reviens aussi très souvent, juste pour m'imprégner de sa musique.
Si c'est le roman vers lequel vous revenez, est-ce que c'est un roman que vous offrez à des personnes régulièrement de votre entourage ou plus ou moins connues?
Alors, je ne les offre pas forcément, mais je leur recommande, c'est certain, parce que c'est vrai que les livres, ça dépend aussi des personnes. Donc, quand j'offre un livre à une personne, j'offre aussi un livre que je sais que cette personne va lire et va aimer. Jazz, c'est pas forcément un livre dans lequel on entre tout de suite. Donc, c'est un livre que je recommande et dont je parle beaucoup, mais que je ne vais pas forcément offrir aux personnes.
Jazz de Toni Morrison. Je leur envie cet amour public. Je ne l'ai moi-même connu qu'en secret, partagé en secret et brûlé d'envie de le voir, de pouvoir dire tout haut ce qu'ils n'ont même pas besoin de dire. Que je n'ai aimé que toi, n'ai abandonné son retour mon être entier qu'à toi et personne d'autre. Que je veux que tu m'aimes et que tu me le montres. Que j'aime la façon dont tu me tiens, dont tu me laisses venir si près de toi. J'aime tes doigts dans tous les sens, qui se dressent et se tournent. J'ai regardé ton visage pendant longtemps. Tes yeux me manquaient quand tu te séparais de moi. Te parler et t'écouter répondre, c'est le pied.
Est-ce qu'il tient aussi à ça, le plaisir de la lecture, s'accrocher, essayer d'espérer qu'il va y avoir quelque chose qui va nous porter plus loin de notre réalité?
Ah oui, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le seul moyen d'entrer dans un univers qui nous transporte ailleurs, mais qui nous ramène aussi vers nous-mêmes et vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Parce que nous sommes dans un univers où nous sommes assaillis d'informations. On pense savoir ce qui se passe dans le monde presque à la minute près, mais en fait, on ne comprend pas grand-chose de ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe au-dessous de tout cet afflux, ce tsunami d'informations. Et à travers la lecture, surtout le roman marque presque un temps d'arrêt dans un univers particulier. Donc c'est un voyage à la fois temporel et spatial et émotionnel, mais où on doit s'arrêter et être face à face, donc à la fois avec un auteur, sa création, mais aussi avec nous-mêmes. Donc c'est un petit monde qui va nous permettre de découvrir d'autres univers et nous-mêmes.
Perdu dans ce petit monde, y a-t-il un livre qui vous a fait rater votre station ?
Ah oui, je crois qu'il y en a plusieurs. Je me souviens, je venais d'arriver à Londres comme étudiante. Alors, qu'est-ce que je lisais ? Je pense que je lisais Virginia Woolf, parce que c'était la période où Virginia Woolf me hantait, je dirais. Et donc, je venais d'emménager dans un petit studio. Et je prenais le bus donc de l'université pour y arriver. J'étais tellement plongée que je n'ai pas vu l'arrêt. Je suis arrivée à un endroit où je ne savais pas du tout où j'étais. Le chauffeur de bus n'était pas particulièrement aimable et il faisait nuit très tôt. On était en hiver et là, j'ai vraiment eu peur. Mais bon, il y a eu une bonne âme, surtout qu'à l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas de téléphone, il y avait téléphone portable ou quoi que ce soit. Mais il y avait une bonne âme qui m'a expliqué comment rentrer. Donc, je suis rentrée chez moi.
Et quel était ce livre de Virginia Woolf ?
C'était, je crois qu'en français ça s'appelle La promenade au phare. En anglais, c'est To the Lighthouse de Virginia Woolf.
Qu'est-ce qu'il raconte pour vous déconcerter autant ?
Oh là là, bah c'est difficile à raconter un livre de Virginia Woolf. Hein. C'est une journée où une famille va aller, des enfants vont aller visiter un phare, et chaque enfant raconte sa partie de la promenade en étant adulte, donc raconte cette partie-là, mais d'une façon, ce qu'on appelle c'est tout, le monologue intérieur.
Le flot de pensée.
Le flot de pensée, voilà, c'est exactement ça. Et on est dans une espèce de micro-description de ce que chacun ressent, donc, au moment présent et au moment où enfants, ils sont en train d'aller ou de préparer le voyage vers le phare. Et il y a donc les rapports avec les parents qui sont assez difficiles, compliqués, et entre eux. Il ne se passe en fait rien, mais on est à l'intérieur de chaque personnage et je crois que c'est ça qui m'a vraiment subjuguée et fait comprendre la puissance de cette narration en jeu et de ce flot de pensée.
To the Lighthouse de Virginia Woolf. Pourquoi vit-on ? À quoi bon, demandait-on, se donner tant de mal pour perpétuer la race humaine ? Est-ce tellement souhaitable ? Question stupide, vaine question, question que l'on ne se posait jamais si l'on était occupé. La vie humaine est-elle ceci ? La vie humaine est-elle cela ? On n'avait jamais le temps d'y penser.
Est-ce qu'il y a un livre dont vous aimeriez écrire la suite ?
Oui, j'y pensais récemment, mais je ne sais plus lequel c'était. En tout cas, c'est un de ces auteurs anglais, donc comme Virginia Woolf, mais non, je n'oserais jamais écrire la suite de Mrs. Dalloway, par exemple, alors que quelqu'un l'a fait après. Mais enfin, je n'ai pas en mémoire exactement, mais il y a souvent des histoires comme ça que j'ai envie de poursuivre ou raconter d'un autre point de vue, du point de vue d'un autre personnage, par exemple.
Vous citez Virginia Woolf, qui est à l'origine de plusieurs chefs-d'œuvre, mais posons les questions qui fâchent. Est-ce qu'il y a des chefs-d'œuvre qui vous ont tombé des mains ?
Peut-être pas des chefs-d'œuvre. Oui, disons que il faut avouer que je n'ai pas lu tout Proust, par exemple. Je lis du côté de chez soi et je le recommence régulièrement en admirant les longues phrases, la manière dont il l'a construit son récit, etc. Mais disons que sur le plan émotionnel, je ne me sens pas suffisamment, captivée. Donc j'admire presque de manière intellectuelle. Donc ce n'est pas très... Je n'ose pas trop l'avouer, mais c'est comme ça. C'est-à-dire pour rentrer, vraiment pénétrer dans un livre, j'ai vraiment besoin que ça me captive émotionnellement. Quand je commence à lire un livre, c'est toujours en attendant cette étincelle émotionnelle qui, par exemple, ce qui fait la différence avec Céline, dont, pourtant, avec Le Voyage au bout de la nuit, c'est un livre tellement d'une violence extrême, mais là, on est emporté par cette violence, on n'en sort pas indemne. Donc, voilà.
Quelle est l'émotion pour vous qui fait déclic, qui va vous faire tourner les pages ?
C'est une sorte de, peut-être de passion dans tous les sens du mot. C'est-à-dire, ça peut être un amour passionnel, mais probablement pas forcément, mais une sorte de passion de vie, presque de vie et de mort. C'est-à-dire, on est dans une quête personnelle, dans une recherche de quelque chose qui va faire qu'on bouscule tous les carcans, toutes les règles, et qu'on va le plus loin possible vers nos capacités humaines à nous emparer du monde. Alors, je ne peux pas l'expliquer davantage que ça, parce que ça peut être très différent. Comme je disais, parfois, une passion, ça peut être une colère, ça peut être une rage, ça peut être un amour généreux ou excessif ou possessif. Mais donc, tout ce qui est dans l'excès, peut-être, qui n'est pas dans la mesure, va sans doute m'attirer.
Avez-vous déjà réfléchi au livre que vous voudriez avoir lu avant de mourir ?
Non. Non, mais bon, parce qu'il n'est peut-être pas encore là, ce livre. Donc,
belle esquive.
Mais Non, parce que je lis beaucoup, donc les livres que j'ai envie de lire, je vais les lire. Évidemment, là, cette année, j'ai lu de très, très beaux livres de jeunes auteurs. Donc, il y a un livre dont on parle beaucoup, c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mabène Bougarsar, qui est un livre magnifique, mais aussi le livre de Julien Delmer, Delta Blues, qui a été publié à cette rentrée-ci, qui est aussi un peu dans la lignée de jazz, en fait, qui parle de musique américaine, de la naissance du blues, plutôt, et qui est aussi un livre magnifique que j'étais contente d'avoir découvert et d'avoir lu.
Si vous prenez un peu de recul, y a-t-il un livre qui vous réconcilie avec les distances et les turpitudes du monde ?
Les livres, en général, me réconcilient avec les turpitudes du monde. Mais là, comme ça, disons, à brûle pour point, je pense à un livre de Hermann Hesse qui s'intitule Siddhartha et qui se passe en Inde. Donc, quand je l'ai lu adolescente, ça m'avait beaucoup frappée parce que, bon, je suis d'origine indienne. Donc, cet univers du bouddhisme, surtout parce que Siddhartha, c'est un autre nom de Bouddha. Mais là, le personnage est différent, mais qui est en quête aussi de quelque chose, d'une sorte de réconciliation avec lui-même. C'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup frappée et touchée profondément quand j'étais adolescente. Et je pense que peut-être c'est un livre qui mérite d'être lu pour cela, pour cette quête de paix, d'épanouissement, de paix, de réconciliation avec soi-même.
Siddhartha d'Hermann Hesse. C'était des hommes maigres, épuisés par les privations. Des ascètes en pèlerinage auxquels on ne pouvait donner aucun âge. Ils avaient les épaules couvertes de sang, de poussière. Leur corps était presque nu et brûlé par le soleil. Toujours solitaires, étrangers et hostiles au monde, ils étaient des intrus, de maigres chacals dans la société humaine. On sentait sur leur passage le souffle brûlant d'une passion silencieuse, d'une activité destructrice, d'un impitoyable détachement de soi-même.
Vous êtes vous-même l'héritière et peut-être la praticienne de plusieurs langues. Est-ce qu'il y a un auteur, une autrice que vous aimeriez pouvoir lire dans sa langue ?
Il y a le poète Rabindranath Tagore qui a traduit lui-même une série de ses poèmes en anglais qui s'appelle Gitanjali. Ce sont des poèmes qui ont fait le tour du monde. Il a d'ailleurs eu le prix Nobel à l'époque. Mais après, j'ai lu que les poèmes qu'il avait écrits à l'origine en bengali étaient beaucoup, beaucoup plus fort, plus dense et plus magnifique en général que sa propre traduction en anglais. Et cela me fascine énormément parce que je suis aussi traductrice, de me dire est-ce que... Enfin, on dit aussi qu'il a peut-être un peu modifié l'original en anglais pour que ce soit plus accessible à un public anglais ou à un public mondial. Mais peut-être qu'il y a des choses qu'il dit en bengali qui vont révéler d'autres aspects de son univers très particulier que j'aurais aimé découvrir, en fait, oui.
Qui choisiriez-vous pour passer une soirée et poser plein de questions?
Oh là là, en fait, là, j'ai déjà écrit un petit texte sur quelqu'un c'est un écrivain mauricien qui s'appelle Malcolm de Chazal, qui avait été découvert par les surréalistes à l'époque. Il écrivait de la poésie, faisait aussi de la peinture, il a écrit des romans, des pièces de théâtre. Il est mort en 1979 ou 81 ou quelque chose comme ça. Il était toujours considéré comme le poète fou de Maurice, peut-être un génie fou, disons. Et j'ai déjà écrit un petit texte inventant une conversation lui et moi, parce qu'en fait il est mort. Alors, enfin, j'étais vivante. Enfin, j'écrivais déjà adolescente quand il vivait à Maurice. Nous étions tous les deux à Maurice, je veux dire. Et je me suis imaginé, si je l'avais rencontré, qu'est-ce qu'il m'aurait dit à propos de l'écriture. Il était assez misanthrope, hein, donc il n'aimait pas beaucoup les gens. Donc il aurait fallu que je sorte de moi-même, de la jeune fille timide, pour essayer de traverser ce carcan, cette armure qu'il avait autour de lui. Mais je pense qu'il aurait beaucoup de choses à me dire, à la fois sur Maurice et à la fois sur l'écriture, sur son univers un peu mystique aussi, un peu magique. Voilà, donc lui, j'aurais bien aimé lui avoir parlé.
Vous souvenez-vous de la première question que vous lui auriez posée ?
Je lui dis en l'abordant, Monsieur de Chazal, j'écris. Et il a dit, ah, jeune fille, quelle erreur. Enfin, je me suis dit qu'il allait me dire ça, ah, jeune fille, quelle erreur. C'est un voyage trop difficile, trop douloureux. Mais, et puis, au fur et à mesure, il comprend que c'était un voyage important pour moi.
L'écriture, une erreur. Et qu'est-ce qui vous fait dire que la lecture peut parfois être une erreur, voire jamais?
Non, je ne crois. Enfin, ça dépend quel livre on lit, mais quand on parle de la vraie, enfin, je vais dire quelque chose peut-être choquant, la vraie littérature, c'est-à-dire où les auteurs sont en train d'écrire pour l'amour de la littérature, pas pour le succès, pas pour l'argent, etc. Ce qui n'est pas, enfin, je veux dire, c'est possible aussi de le faire. Il n'y a aucun mal à cela. Mais si on veut qu'un texte reste, il faut que ce soit au service de l'écriture et pas le contraire, pas son propre service. La lecture n'est pas une erreur en ce sens où, en général, les auteurs ne sont pas là pour répondre à des questions ou pour asséner des messages, mais pour justement amener les lecteurs à se questionner, remettre en question toutes leurs certitudes, tout ce qui les entoure. Et dans ce sens-là, c'est nécessaire. Parce que quand on a trop de certitudes, ben, on ne grandit plus, on ne change plus. Et c'est là où on se rigidifie au point de pouvoir faire du mal aux autres.
Quelle serait la question qui traverse toute votre œuvre ?
Qui sommes-nous, je pense ? Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Comment nous comprendre, en fait ? Comment mieux comprendre notre présence ? Faire acte aussi de présence dans la vie ? Parce que, bon, c'est une vie finalement brève et nous perdons tellement de temps dans cette vie à des choses qui n'ont aucune importance. Pour moi, chaque instant est important. J'ai écrit dans un poème « Je n'attends de la vie que le miracle de ces instants ». Et ce miracle-là, ça peut être un ciel très bleu au moment où on ouvre la fenêtre le matin, ça peut être un enfant qui sourit, ça peut être aussi quelque chose de merveilleux qui nous arrive. Mais les miracles sont présents et je pense que nous passons trop de temps, encore plus maintenant, dans nos écrans et donc nous perdons le sens des miracles.
Je ne sais pas si ce moment a été un miracle pour nos auditeurs, mais merci infiniment à Nanda Devi.
Merci à vous.
Je cite votre dernier roman, Le rire des déesses, à découvrir aux éditions Grasset.
Merci.
La série de podcasts des Questili enregistrée au Salon du Livre du Mans est à retrouver sur lemonde.fr et les plateformes habituelles de podcasts. À bientôt et bonne lecture.